Bonjour à tous. Bonjour à vous que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. J'aimerais juste qu'on s'incline un instant dans la prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Notre Père bien-aimé, comme a dit notre frère Jérémie, c'est surtout ta parole qui sait mieux que quiconque dire les choses qu'il faut. Et nous, nous ne sommes que des porte-paroles. Nous ne voulons rien inventer, nous ne voulons rien rajouter, nous ne voulons rien enlever. Ta parole est la vérité. Ta parole est suffisante. Ta parole est puissante. Ta parole est créatrice. Ta parole nous renouvelle. Elle nous console. Elle nous convainc. Elle nous instruit. Elle nous forme au ministère jusqu'à la maturité en Jésus-Christ, à l'état d'adulte spirituel, d'homme fait. Et on te remercie, Seigneur, pour cette parole que nous chérissons sur notre cœur depuis tant d'années, pour certains d'entre nous en tout cas. Et ce matin, je te demande vraiment que cette parole soit en bénédiction à ton Église, pour ton peuple, pour tous ceux que tu aimes. Et il n'y a pas une personne dans cette pièce que tu n'aimes pas. Chaque personne, tu l'aimes à ta façon. Et tu la chéris dans ton cœur, quelle que soit sa position, quel que soit son statut, quelles que soient ses origines, quel que soit son âge, quelles que soient ses compétences. Nous sommes tous devant toi comme des enfants, devant leur papa. Et ce matin, nous voulons t'écouter tout simplement et prier que ton esprit nous assiste dans la diction, mais aussi dans l'écoute. Et que ton nom en toute chose soit glorifié, dans le beau nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Maître, notre Sauveur. Amen. Alors, oui, ce matin je pensais commencer comme ça. Il est allé trop vite. Qu'est-ce que j'allais bien vous dire ? Ben, c'est déjà dit. Évangélisation, séduction, proclamation. Ça peut vous surprendre que j'ai choisi ce thème parce que je m'empresse de dire que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'évangélisation. Et si je vous parle de ça ce matin, c'est parce que j'ai été touché par plusieurs textes qui m'ont interpellé, moi qui ne suis pas du tout spécialiste. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est l'ironie de Dieu, c'est qu'elle peut, même chez vous, elle peut vous surprendre. Elle peut vous utiliser à votre insu, cette ironie de Dieu. Elle peut vous faire des choses que vous n'avez jamais imaginé faire un jour. Notre Dieu nous surprend, et ça c'est tout le piquant de la foi. C'est que notre Dieu se met pas dans une boîte. Ça n'est pas un Dieu qu'on définit, alors il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Vous savez, les beaux schémas qui sont justes, mais qui sont parfois tellement dépourvus de vie et de piquant. Et je trouve que notre Dieu, il nous surprend des fois. Alors, oui, s'il veut bien marcher, évidemment. Et un des textes qui m'a interpellé ces derniers temps, c'est cette histoire de Félix. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Félix dans Acte 24? Alors, je ne parle pas de Félix le chat. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Félix, que l'apôtre Paul va évangéliser durant sa détention à Césarée. Félix, nommé gouverneur de Judée en 53 après Jésus-Christ, grâce à l'influence de son frère Pallas, qui était le favori de l'empereur romain Néron. Vous connaissez Néron ? Vous voyez un peu qui c'est ? Félix, un tyran cruel, criminel et immoral, probablement cupide, puisqu'il espérait que Paul lui donnerait de l'argent pour être relâché de prison. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. Ça, c'est acte 24, verset 26 qui nous le raconte. Il n'hésitait pas, ce Félix, à commanditer des assassinats et à perpétuer des massacres. C'était pas un enfant de cœur, hein, comme on dit. Il avait déjà rompu deux mariages pour épouser Drusille, qui était la fille juive du roi Hérode Agrippa, après l'avoir poussée elle-même à quitter son époux légitime. Ça vous donne un petit peu une idée du bonhomme. Il était accusé par les Juifs pour tous ses méfaits et il est convoqué à Rome. Ça blaguait pas dans l'Empire romain, même quand un militaire ou un gouverneur faisait des choses qui révoltaient le peuple. Il était directement convoqué à Rome. C'était le cas pour Pilate, vous vous rappelez l'histoire de Pilate. Et lui aussi, il a été convoqué en 60 et il parvient à échapper à la punition de Néron, encore grâce à son frère Pallas. Alors vous imaginez son sentiment d'impunité. On en parle beaucoup aujourd'hui de l'impunité dans notre monde, quand on regarde le comportement social de certaines personnes. L'impunité, aujourd'hui, c'est un vrai problème dans notre société. Oui, il n'y a pas que ça comme problème, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Bon. Donc c'est cet homme-là que Paul va évangéliser. On aurait plutôt envie de le mettre au bout d'une corde, tellement il faisait des choses horribles. Eh bien, Paul va profiter de ses entrevues avec lui pour lui parler du Seigneur. Ça, c'est déjà un exploit que Dieu seul peut faire. En acte 24, versets 24 à 27, quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il fit appeler Paul et l'écouta parler de la foi en Christ. C'est clair. Il lui a pas parlé de la création, de l'évolution, de tout ça. Non, il lui a parlé de la foi en Christ. Un gouverneur romain païen assassin, il a été au centre de l'essentiel, vraiment à l'essentiel. Et on ne sait pas tous les détails de ce qu'il a dit par rapport à la foi en Christ, mais ce qui m'a interpellé, c'est la suite. Mais verset 25, « Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit, « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » 2 ans passèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. De toute évidence, la conscience du fils de Félix est embarrassée. Et là, le texte dit même il est effrayé. Il se passe quelque chose quand même. L'évangile qui lui est présenté ne parle pas que d'amour de Dieu, que de grâce et de salut. Paul ne cherche pas à le séduire, mais à l'amener à la repentance salutaire. Et c'est ça qui m'a frappé. Et vous verrez peut-être que c'est un peu différent de la façon dont nous aujourd'hui nous envisageons les choses. Mais Dieu veut peut-être remettre en question certaines de nos conceptions plutôt erronées. Alors avez-vous remarqué les ingrédients de la prédication de Paul à ce tyran terrible ? La foi en Christ, bien sûr, pas seulement la foi en Dieu. Vous savez que l'apôtre Jacques a dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. » Parfois, nous, on est contents parce qu'on parle de Dieu, mais c'est pas ce que Paul a fait. Paul a parlé de Christ déjà. Ça change beaucoup de choses. C'est beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus gênant même parfois. Dieu, ça ne gêne personne. Quand on parle de Dieu, ça ne gêne personne. Vous pouvez parler de Dieu à un musulman, vous pouvez parler de Dieu à un catholique, à un protestant, à plein d'autres religions, ça ne gêne personne. Quand vous prononcez le nom de Christ, là, c'est déjà beaucoup plus gênant. Alors ça, déjà, ça m'interpelle. Un ingrédient important, il parle de la justice. On serait curieux de savoir ce qu'il a dit derrière, hein. il a parlé de la justice. Mais l'Écriture nous révèle des choses là-dessus. Il parle de la maîtrise de soi, qui est un aspect du péché, quand on ne l'a pas, cette maîtrise de soi. Et puis, il parle du jugement à venir. Ouh, alors, je ne sais pas, mes amis, quelle est votre impression, mais il me semble que dans nos églises, dans nos prédications, c'est un sujet dont on ne parle plus. C'est un sujet tabou. Probablement que ça n'existe plus. Probablement que le danger n'est plus là. Certes, il y a une solution pour y échapper, mais on verra ensuite. Notre évangélisation comporte-t-elle ces ingrédients qui ne sont guère séducteurs, n'est-ce pas? Parler aux incroyants du problème du péché, la question de la justice de Dieu et du jugement à venir. On a l'impression que c'est pas la bonne façon de faire, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que l'apôtre Paul, le grand apôtre, a fait pour évangéliser Félix. Et pas seulement Félix, on verra. Ces ingrédients ne nous rappellent-ils pas quelque chose? Je vous demande simplement de vous rappeler ces trois mots, péché, justice, jugement. Est-ce que ça vous évoque quelque chose dans vos lectures bibliques? Péché, justice, jugement. Il y a un verset qui devrait peut-être vous venir à l'esprit. Pardon? L'Esprit Saint, oui. En Jean 16, verset 8, « Quand il sera venu, donc l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit de Dieu, le Défenseur, le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et ça, c'est une allusion à sa venue à la Pentecôte et à toute cette qu'on appelle la parenthèse de l'Église jusqu'à l'enlèvement de l'Église. L'Esprit Saint est là. Il a été envoyé par Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de lui dire « Viens, Esprit Saint !» Si nous avons été baptisés de l'Esprit, si nous avons reçu l'Esprit, si nous avons accepté Jésus-Christ, si nous sommes nés de nouveau, l'Esprit Saint, il est dans notre cœur. Et c'est à nous de lui donner toute la liberté de nous diriger, de nous contrôler, de nous conduire dans toute la vérité, dans toute la justice de Dieu. Si nous sommes chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il faut être clair, hein? Ça nous conforte dans cette relation avec notre Dieu. Alors, n'est-ce pas cela, évangéliser par l'Esprit? Ça, c'est une expression que j'ai découvert, figurez-vous. Il va y avoir 44 ans, bientôt, que je connais le Seigneur, que je lis sa parole, que je l'enseigne, que je la prêche. Et cette expression « évangéliser par l'Esprit de Dieu » m'avait échappé. À croire que dans nos milieux, nous nous sommes peut-être habitués à prêcher, peut-être plus par, je ne sais pas, autre chose, des techniques, des je ne sais pas, mais... évangélisé par l'Esprit. Et il y a deux passages, il y en a peut-être plus, mais j'en ai trouvé au moins deux. Il y a 1 Pierre 1,12, à la fin du verset 12, où on trouve cette idée, évangélisé par l'Esprit, et 1 Thessaloniciens 5, qui précise les choses en disant de ne pas prêcher en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine conviction. Et ça a été une découverte récente, mes amis, il y a un an tout au plus. Cette notion d'évangélisation par l'Esprit Saint. Ah, intéressant, hein? Évangéliser en accord avec le plan du Saint-Esprit qui veut convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous voulons souvent la guérison, même de l'âme, avant le diagnostic. Alors, je pourrais laisser la place à notre sœur Amandine pour qu'elle nous explique l'importance d'un diagnostic. Je me souviens d'un médecin du sport qui un jour, on discutait ensemble, il me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous faire un bon diagnostic avec un malade en 10 minutes ?» C'est la moyenne d'un entretien médical classique. Alors, certains font plus et ils vous prennent en retard. Mais un diagnostic en 10 minutes, c'est quasiment impossible. Alors bien sûr, on peut vous donner un tas de médicaments, un tas de cochonneries qui vont vous bousiller la santé, mais le diagnostic, c'est capital pour une guérison physique et pour une guérison de l'âme aussi. C'est le même principe. Et Paul, en voulant amener Félix à la repentance, il voulait établir ce diagnostic, l'aider à sa guérison de l'âme. Alors, l'évangile est-il réduit à Jean 3,16? On connaît Jean 3,16, hein, on peut le chanter, on peut... En effet, Dieu a tant aimé le monde, et c'est vrai, ce matin on peut le dire, qu'il a donné son Fils unique, c'est vrai, afin que quiconque croit en lui, met sa confiance en lui, oui, c'est vrai, amen, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un verset que nous connaissons par cœur. Mais vous remarquerez que dans notre prédication, c'est très rare de lire la suite. Versets 17 à 21, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En fait, Jésus a été jugé à notre place. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ça aussi, c'est pas séduisant, hein? Si on prêche Jean 3,16 et la suite, on s'arrête à Jean 3,16 parce que la suite, c'est pas toujours très séduisant. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et il ne se rend peut-être même pas compte de l'importance que ça représente pour Dieu qui met sa confiance dans le Fils unique. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise, c'est-à-dire en somme non conforme à ce qui est juste aux yeux de Dieu. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes ne soient dévoilés, mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Alors, pourquoi Félix était-il effrayé par l'évangélisation de Paul? Moi, je pensais que l'évangélisation, c'était un message agréable, un message de bonne nouvelle, un message où on vous parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, du salut en Jésus-Christ. Ça devrait être un message séduisant. Pourquoi était-il effrayé? Ni l'amour, ni la grâce, ni le salut ne pouvaient l'effrayer. Mais pourtant, Félix n'était pas idiot. Il était romain. Donc, il n'était pas idiot. Il savait que sa manière d'agir était mauvaise, qu'elle n'était pas conforme à la justice de Dieu. Il préférait les ténèbres à la lumière. Sa conscience savait qu'il faisait le mal et qu'il était atteint par le péché. Là, le Saint-Esprit, quand l'Écriture dit qu'il était effrayé, que Paul lui parle du jugement, du péché, de la justice, on voit l'action du Saint-Esprit là, sous nos yeux. Le Saint-Esprit était en train de travailler chez Félix, et si Félix n'a pas été sauvé, c'est de sa faute à lui, Félix, et non pas la faute du Saint-Esprit ou de Paul. Pourquoi avait-il peur de la lumière? Pour éviter que ses œuvres ne soient dévoilées. Et le problème, justement, c'est que ces œuvres ont été dévoilées. Alors, elles étaient déjà dévoilées aux yeux de Dieu, mais les Juifs, ils n'étaient pas contents de ce qu'ils faisaient. Ils se sont plaints directement à l'empereur et l'empereur l'a convoqué à Rome. Ses œuvres ont été dévoilées. Et lui, il imaginait que parce qu'il avait de bonnes relations avec son frère, qui était le favori de Néron l'empereur, alors que tout allait bien se passer, effectivement. Il a profité encore de ça. Voilà pourquoi il repousse à plus tard et ne se repent pas. Mais vous voyez qu'il est vachement gêné, quoi. Il est vraiment effrayé. Alors, c'est pas la grâce, c'est pas le salut, c'est pas l'amour de Dieu qui l'a effrayé. C'est le péché. la justice, le jugement, précisément ce que le Saint-Esprit veut faire depuis qu'il a été envoyé sur terre. Pourquoi plaire aux Juifs ? Pour plaire aux Juifs, il va laisser Paul en prison encore 2 ans. Vous rendez compte ? 2 ans de prison en plus de tout ce qu'il venait de faire. Et puis il va refiler la patate chaude à son successeur en se disant « Moi, je ne sais pas quoi faire avec ce client-là. Festus, il s'en débrouillera après. » Là encore, on révèle bien qui est le personnage. Mais se rend-il compte qu'il est déjà jugé en n'ayant pas accepté de se repentir, de remettre son péché entre les mains de Dieu, d'accepter la justice de Dieu en Jésus-Christ, puisqu'il lui a parlé de la foi en Jésus-Christ, Paul, et d'accepter ce jugement qui est tombé sur Jésus-Christ à la place de lui tomber dessus. Non, il n'en tient pas compte. À quoi lui aurait servi un évangile exclusivement centré sur l'amour de Dieu, la grâce et le salut, s'il restait attaché à son péché, s'il n'a que faire de la justice de Dieu et du jugement à venir? Non, mes amis, je crois que Jean 3,16 ne suffit pas pour prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit a une méthode différente, beaucoup plus complète, beaucoup plus efficace et beaucoup plus profonde pour guérir les âmes, pour guérir les perdus, pour les sauver. Le Saint-Esprit veut parler du péché, de la justice et du jugement quand l'Évangile est annoncé. L'appel à la repentance fait-il encore partie de notre Évangile ? Ça, c'est une bonne question. Pour nos églises, pour nos prédicateurs, pour nos missions, est-ce que ça fait encore partie du message ? Et pourquoi n'en ferait-il plus partie ? Évoquons-nous le problème du péché ? Évoquons-nous la justice de Dieu ? Évoquons-nous le jugement à venir et l'enfer qui attend les plus endurcis ? Quand avez-vous entendu parler de l'enfer dans une prédication la dernière fois ? Est-ce que l'enfer aurait disparu ? Est-ce que le danger de l'enfer aurait disparu ? Est-ce que le jugement à venir a été annulé par Dieu ? Pourquoi ces vérités nous échappent ou on les oublie ? Bien sûr que le pécheur repentant bénéficie de la grâce, de l'amour divin et du salut, et que la vérité dérangeante de Dieu doit être prêchée avec amour et sagesse. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas un spécialiste de l'évangélisation. L'évangéliste, il va avoir ce don particulier pour proclamer l'évangile avec amour et avec sagesse. Nous sommes tous concernés aussi. C'est ce qui nous permet d'aborder le sujet de l'évangélisation avec beaucoup d'empathie pour les pécheurs qui ne sont pas encore convertis à Christ, parce que nous étions comme eux. Nous étions morts, nous dit l'Écriture. Nous étions loin de Dieu et nous ne nous en rendions même pas compte de notre état. Et nous ne pouvons pas aborder l'évangélisation avec une espèce de hauteur, non. Il faut toujours se rappeler d'où nous venons et annoncer l'évangile avec amour et sagesse, n'est-ce pas ? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut cacher les vérités qui pourraient permettre un diagnostic efficace en vue du salut de la personne. Mais sans repentance, pas de salut. Ça, c'est peut-être une chose qu'on a un petit peu oubliée. On croit peut-être, parce qu'on a été formé comme ça, qu'il suffit d'accepter la grâce de Dieu, qu'il suffit d'accepter le cadeau de Dieu et de ne rien changer à sa vie, et on est sauvé. Mais le message de Dieu, la volonté du Saint-Esprit pour pouvoir faire naître de nouveau une personne, c'est pas simplement ça. Et nous, si c'est comme ça qu'on le voit, c'est peut-être parce qu'on est dans une société qui met l'accent sur ce genre de choses. Le message de la repentance était-il occasionnel dans la prédication de Paul ? On pourrait dire oui, il a prêché la repentance à Félix, mais c'était pas son habitude. Félix, c'était vraiment un cas, Faut quand même être d'accord. C'était quand même quelque chose, hein. Il en avait lourd sur les épaules, hein. Donc il méritait quand même un bon sermon, hein, bien 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 épicé, voyez ce que je veux dire. En Actes 26, versets 19 à 20, Paul explique devant le roi Agrippa cette fois-ci: Je n'ai pas résisté à la vision céleste, donc sur le chemin de Damas, quand Jésus l'interpelle et lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Aux habitants de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée, et non seulement aux Juifs, mais aux païens, aux non-Juifs, j'ai annoncé quoi? Qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà quel était le contenu, les ingrédients de la prédication de l'évangile par l'apôtre Paul, qui était un expert en la matière. Il était non seulement quelque sorte évangéliste, mais il était aussi apôtre. Il était envoyé, il implantait des églises. Tout le monde ne fait pas ça, hein. L'église d'aujourd'hui fait-elle de même? Ou se croit-elle plus douée en laissant de côté une partie capitale du message? Serait-ce plus séduisant, plus attirant, plus positif? Et on veut rester positif en tout cela, bien entendu. Peut-être préférons-nous séduire plutôt que proclamer. Nous pensons qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Moi, c'est une expression que j'ai souvent utilisée moi-même. Nous pensons qu'il suffit de parler de la grâce de Dieu dans une société habituée aux cadeaux de bienvenue, n'est-ce pas? Parler de ce qui ne dérange pas trop, parce que on va faire des mécontents et on va pas atteindre notre objectif. Mais en fait, ça ne marche pas. L'Esprit Saint travaille autrement. Et moi, c'est ce que ce texte, cette révélation, m'a montré. C'est que l'Esprit Saint a une façon de travailler. Et que si nous voulons construire l'Église, on ne peut le faire sans l'Esprit Saint et sans sa parole. Et si nous voulons être le plus efficace possible pour la gloire de notre Dieu, nous devons adopter la méthode de l'Esprit Saint. Enfin, la méthode, le plan plus exactement de l'Esprit Saint. Les cœurs et les consciences ne sont pas touchés, ce qui fait que l'Église ne grandit pas. Et ce qui est marquant, même si l'Église primitive, c'est une expérience très particulière, quand on parle de 3000 conversions, on devrait relativiser un petit peu parce que on prétend qu'à Jérusalem, il y avait des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Donc si vous faites le rapport entre 3000 quelques dizaines de milliers ou des centaines de milliers, bon, c'est pas si grand qu'on l'imagine. Mais il est dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il est bien dit, Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était pas les responsables, c'était pas les gens qui faisaient du prosélytisme et qui faisaient signer un registre et qui faisaient toutes ces choses-là. C'était Dieu qui ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pire encore, donc, beaucoup de gens trouvent trop facile et trop simple le salut par la grâce. Vous en avez peut-être rencontré des gens comme ça. Des gens qui vous disent, non, mais, allez, ton évangile, c'est bien joli. Mais alors, il suffit de croire en Jésus et hop, on est sauvé. C'est tout simple. Mais c'est trop simple. Et c'est pourtant peut-être parce que nous le présentons ainsi que c'est trop simple. Est-ce que nous disons toute la vérité aux incroyants? Parce qu'ils ignorent le reste du message. Précisément, ils ignorent le cancer du péché. Le mot est pas trop fort. Ils ignorent la justice d'un Dieu infaillible. Ils ignorent le jugement à venir. Et surtout, ils ignorent la nécessité de changer de vie et d'attitude. Ça, c'est beaucoup moins facile. C'est facile d'accepter un cadeau, une grâce. Mais quand ça implique un changement de vie radical, et le mot radical n'est pas trop fort en ce qui concerne la foi en Christ, je pense, si on examine vraiment tel que c'est expliqué dans l'Écriture, c'est pas facile du tout d'accepter le salut, d'accepter Jésus-Christ. Ils oublient aussi, les non-croyants, qu'il ne suffit pas d'accepter Christ comme sauveur, mais comme Seigneur et Maître de leur vie, c'est-à-dire des disciples, et non pas simplement des sauvés. Nous n'avons pas été appelés simplement à être sauvés, nous avons été appelés à être des disciples. Même si le cadeau est beau, même si le cadeau est attrayant, les conséquences, les incidences de ce choix, ce n'est pas si facile qu'on veut bien le dire. Et si les gens disent que c'est trop facile, c'est parce qu'on leur cache une partie de la vérité. Pour ne pas les effrayer peut-être, d'une façon tout à fait sincère, tout à fait gentille. Mais est-ce bien honnête quelque part ? La véritable évangélisation selon l'Écriture est une proclamation et non une séduction. En tout cas dans la Sainte Écriture, plusieurs mots sont utilisés pour exprimer cette proclamation. À la Pentecôte, qu'il s'agisse des merveilles de Dieu ou de l'évangile proclamé par Pierre d'une voix forte, le mot grec, alors je vous l'ai mis là parce que ça fait plus savant, hein, c'est normal, vous serez plus savant en partant comme ça. Moi je l'ai été aussi là. Je l'ai mis comme ça, je ne vais pas laisser de le prononcer apophthengomai, on va dire comme ça. Ça signifie énoncer clairement, proclamer publiquement, et on le trouve dans Actes 2, verset 4 et verset 14. Ça c'est un premier mot qui montre bien ce que c'est que la proclamation de l'évangile. C'est pas une petite vérité qu'on dit en catimini, en silence, enfin dans un petit coin caché, non, c'est une énonciation claire, une proclamation publique. Il y a un autre mot qu'on trouve dans la lettre aux Romains qui se dit kérisso, qui veut dire être un héros, d'où le petit bonhomme avec la trompette. Un héros, mais un héros avec A-U-T, pas O-S. Hein. Un héros, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais un héros, il proclame haut et fort un message important. Alors, vous n'avez pas connu ça, vous êtes peut-être trop jeune pour beaucoup d'entre vous, mais moi j'ai connu cette époque à la campagne où nous avions le garde champêtre. Et le garde champêtre, il avait son vélo ou sa mobylette, après ça s'était modernisé. Et le garde champêtre, il avait un petit seau avec de la colle, il avait un pinceau, il avait une affiche, une annonce importante, et il s'arrêtait devant chez nous et il avait un petit tambour. Avis à la population. Le maire, puis il avait un accent comme ça, il roulait les airs. Alors c'était le maire a fait un décret qui dit que c'était le héros du village. Et il annonçait tout ça, et après il collait l'affiche sur le, au cas où certains n'aient pas entendu. Il collait l'affiche sur le mur qui était prévu à cet effet. Voilà un peu ce que c'est qu'un héros. Et en Romains 18, on le trouve, la parole de la foi que nous proclamons. Et Romains 10, 14, 15. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce, littéralement, sans proclamant, ou proclamateur, je ne sais pas si c'est français. Et au verset 15, et comment l'annonceront-ils, ou comment le proclameront-on, si personne n'est envoyé ? Nous pourrions avoir la faiblesse de croire qu'il suffit d'avoir une bonne conduite pour évangéliser, ce qui est nécessaire pour être crédible, bien entendu. On pourrait s'imaginer qu'il suffit de rendre témoignage occasionnellement de notre foi, ce qui nous est demandé, et ce que nous faisons, je pense, plus ou moins régulièrement. 1 Pierre 3,15 nous dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Et moi, la question m'est venue aussi, c'est « Et si personne ne vous demande rien, on fait quoi ? » Est-ce que ça suffit pour sauver des âmes ? Est-ce que ça suffit pour amener des gens à la lumière de Jésus-Christ? On pense parfois qu'il suffit d'organiser quelques activités pour attirer des curieux et glisser furtivement dans leur sac un traité ou un évangile, se hasarder à glisser quelques bonnes questions dans la conversation, ce qui peut être fort utile. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour sauver une âme? Qu'il suffit de faire connaître notre église ou notre mouvement en espérant que ça ouvrira des portes, ce qui n'est pas inutile, mais avouez-le, relativement secondaire. Quelle importance notre mouvement? Quelle importance notre dénomination? Nous ne sommes qu'un outil entre les mains de Dieu, un outil qui n'est pas toujours docile. Il suffit parfois, on pourrait penser, de raconter l'histoire de Jésus, son incarnation par exemple. Alors là, on commence à se rapprocher un petit peu, mais on n'y est pas encore. Toutes ces approches ne sont pas encore la proclamation du message de Dieu. Elles ne suffisent pas à toucher les consciences et à faire grandir l'Église. Le message de l'Évangile doit toucher les consciences, et pas simplement l'intellect. Pas simplement l'intérêt d'être sauvé, de sauver sa peau de l'enfer, mais elle doit toucher les consciences par rapport au péché, à la justice et au jugement. De quoi le Saint-Esprit veut-il convaincre les consciences de péché? Ça veut dire qu'il faut parler du problème du péché quelque part. Sans péché, pas besoin de salut. Pourquoi est-ce que les musulmans ne croient pas au sacrifice de la croix en Jésus? Parce qu'ils n'ont pas de problème avec le péché. Il n'existe pas de péché originel dans l'islam. Il y a les petits péchés de tous les jours qu'on rachète avec des œuvres et tout ça, mais il n'y a pas la notion de péché originel, ce cancer qui est transmis de génération en génération. Donc c'est un problème dont il faut parler. Ça fait partie du diagnostic. En hébreu, j'étais amusé par le nom hébreu « kata », parce qu'effectivement, le péché, c'est une sacrée kata dans la vie des gens, dans la vie de l'humanité. Et ça signifie manquer le but, comme vous le savez sûrement, fixé par Dieu. Toute transgression de la volonté révélée, toute offense qui attriste le cœur de Dieu, tout manque de confiance envers Dieu et sa parole, tout manque d'intérêt pour sa personne. Et l'Écriture nous met à l'aise puisqu'elle nous dit que tous, autant que nous sommes, tous ont péché. Donc on n'a pas besoin de regarder même les autres de notre hauteur de disciples. Hein. On était dans la même galère qu'eux. Sans bon diagnostic, pas de guérison possible. Et puis le Saint-Esprit veut convaincre de justice, parler de la justice de Dieu dans cette proclamation. Pas de notre propre justice, on sait qu'elle est sans valeur, elle est sans efficacité, elle n'existe pas. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, nous dit l'Écriture. Là aussi on est très à l'aise. On ne peut pas regarder l'autre en disant « je suis plus juste que lui parce que je vais au culte tous les dimanches » ou « parce que je suis prédicateur » ou « parce que je suis évangéliste » ou « je ne sais quoi ». Aucune pratique religieuse ou bonne action ne peut nous rendre justes. Un seul était juste, Jésus le Christ. Lui seul pouvait payer le prix de nos fautes par son sacrifice parfait en versant son sang à la croix de Golgotha. Et puis le Saint-Esprit veut parler de jugement. Le jugement à venir, mais aussi le jugement qui a eu lieu à la croix, où Jésus a subi à notre place le jugement de Dieu, et ce jugement nous permet d'échapper au jugement à venir, à condition bien sûr de placer notre confiance dans ce moyen de salut que Dieu a choisi en son Fils Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle l'identification. C'est pour ça que nous formons le corps de Christ, parce que nous avons été identifiés en sa mort, comme nous avons été identifiés à sa résurrection, et que nous serons ressuscités un jour quand il l'aura décidé. Quand les consciences sont touchées maintenant, soit on fait comme Félix, je t'entendrai là-dessus une autre fois, on reporte, c'est dangereux de reporter les choses, soit on met notre confiance dans la proclamation de l'Évangile, Et là, on a des promesses très claires dans Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement, si tu professes de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et Romains 10, 10 nous dit en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et qu'on parvient à la justice. Justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction, que l'on professe et qu'on parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte, il ne sera pas déçu, il ne sera pas dans la confusion. Et Romains 10, 12 à 13, le Seigneur se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ça, c'est merveilleux. Il faut le déguster un petit peu, là. Le Seigneur se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom de Jésus sera sauvée. Faire appel à lui suppose qu'on ait besoin de lui. Est-ce notre cas? Avant de me convertir, j'ai fait appel à Dieu. J'étais dans un moment tellement noir, tellement déprimant, tellement triste. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, j'étais dans ma chambre, je regardais le plafond, j'avais un cœur lourd comme ça. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, je te demande trois choses. Un, deux, trois. J'ai demandé trois choses. Et dans les mois et l'année qui a suivi, le Seigneur a répondu à ma demande. Et non seulement il a répondu à mes trois choses, mais il m'a fait connaître l'Évangile. C'est fou. Et vous voyez que Corneille, qui lui-même était un homme pieux, mais qui n'était pas chrétien, il a eu besoin du Saint-Esprit quand Pierre est venu le voir, lui parler de l'Évangile. Il a reçu le Saint-Esprit. Il n'était pas encore sauvé, mais il était quand même. Il avait besoin de Dieu. Alors, nourrissons-nous de cette vérité du verset 13. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Parce qu'elle ressent ce besoin, parce que sa conscience a été touchée, parce que le diagnostic a été fait. Elle se rend compte de son péché, elle se rend compte de ce qu'est la justice de Dieu, et elle se rend compte du jugement à venir de Dieu et du jugement de la croix qui a été fait pour elle. Pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle? Pourquoi une nouvelle est une bonne nouvelle? Moi, ce que je regrette un peu dans ma vie chrétienne, et dans la vie en général de nos communautés, c'est que j'ai l'impression que l'Évangile n'est plus vécu comme une bonne nouvelle. Elle a tellement été galvaudée, tellement repassée, révisée, donnée sous toutes ses formes, que on parlait de joie ce matin, mais est-ce que ce matin j'ai encore la joie d'avoir reçu cette bonne nouvelle et la joie de pouvoir aussi la partager aux autres? Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, alors j'ai pas fait une grande étude là-dessus, mais rapidement, ça s'inscrit dans un contexte en général plutôt morose ou inquiétant. Parce que si notre vie n'était faite que de bonnes nouvelles, vous êtes d'accord avec moi, on n'y ferait plus attention. C'est normal. C'est pas spécialement une bonne nouvelle, c'est une nouvelle, quoi. Comme celle qu'on lit dans le journal tous les matins. Bon, un jour il y a du nuage, un jour il y a des soleils et tout ça. Mais si je suis atteint d'une maladie et qu'un protocole permet ma guérison, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Ça, je le vis autrement, hein. Si je suis inquiété par la justice et que finalement je suis acquitté, ah, ça, je vais le vivre autrement, hein. Ça va pas être une nouvelle ordinaire. Si je suis en jugement et qu'un autre accepte d'être jugé à ma place, c'est une bonne nouvelle, même si ma fierté va en prendre un coup, et je me sentirai coupable que l'autre est mort à ma place. Mais mes amis, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. C'est normal que je ressente une certaine culpabilité, en quelque sorte, qu'il ait fallu qu'il meure à ma place. Je veux dire, c'est pas anodin. C'est pas un petit geste comme ça dans l'histoire de l'humanité qui passe inaperçu très vite. C'est vraiment une nouvelle extraordinaire. Mais comment vivrai-je cette bonne nouvelle si je ne suis pas conscient de ma situation désespérée du départ? c'est-à-dire la maladie, l'inquiétude dans le jugement, dans la justice ou la condamnation d'un jugement. Comment vivrai-je cette bonne nouvelle si je ne crois pas à la solution proposée? Ça peut être une bonne nouvelle d'avoir un protocole pour être guéri, mais si je n'accepte pas ce protocole. Et là, le protocole proposé, c'est Jésus-Christ à la croix de Golgotha, on ne le dira jamais assez. Ce sacrifice peut paraître fou, mais notre Dieu et Jésus-Christ ont été assez fous d'amour pour nous offrir ce cadeau immérité. Moi, ça me dépasse. Ces voies sont impénétrables, incompréhensibles, et effectivement, il faut être fou d'amour pour accomplir un geste pareil. Alors, comment le vivons-nous? Est-ce qu'on dit « bof, je suis habitué, je suis sauvé, je suis content, que les autres se débrouillent quelque part ?» On pourrait réagir comme ça dans notre société tellement individualiste, tellement repliée sur elle-même. Dieu a-t-il cherché à nous séduire ou à nous proclamer sa vérité dérangeante? Et nous cherchons-nous à séduire les incroyants ou à proclamer le message? Alors, on revient à cette question, évangélisation, séduction ou proclamation? Mais alors, qui proclame? C'est la question. Romains 10, verset 15 nous dit « Comment le proclamera-t-on si personne n'est envoyé ?» On a vu la nécessité de proclamer pour que le message de Dieu soit entendu. La bonne conduite ne suffit pas, le témoignage occasionnel non plus, même s'ils sont bons en eux-mêmes. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu proclamée. Si on veut susciter la foi, on est obligé de passer par la proclamation. Mais qui proclame? Vous, moi, tous les chrétiens? Il faut être envoyé. Envoyé par qui? Envoyé par Jésus. C'est lui, nous dit l'Écriture, qui a donné les uns comme envoyés, les apôtres. On dit les apôtres, alors on les met sur un piédestal. Mais les apôtres, c'est des chargés de mission, hein, ni plus ni moins. Alors ils ont eu un rôle, les douze ont eu un rôle capital que nous, on n'a pas à reproduire. Mais en soi, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Les 70, ils n'étaient pas apôtres comme les 12, et ils ont été envoyés quand même. Et nous pouvons avoir aussi un appel, un envoi particulier. Donc, il y a les chargés de mission, les envoyés, puis il y a aussi ceux qu'on appelle les évangélistes. Eux, ils ont quand même un rôle très particulier. Et dites-vous bien, enfin, peut-être ça vous interroge pas, je sais pas, mais est-ce que vous connaissez parmi vous un évangéliste ou une évangéliste? Moi, je ne connais pas. Est-ce que c'est pas un problème au regard de l'Écriture? Si nous manquons d'envoyer d'évangélistes, c'est à Jésus que nous devons demander. Mais considérons-nous encore ces charismes comme actuels? Peut-être il y a certains qui vous disent « Oh non, mais il n'y a plus d'apôtres. » Oui, il n'y a plus les 12, mais il y a des envoyés, il y a des missionnaires, il y a des chargés de mission. Ah, il n'y a plus d'évangélistes, il n'y a plus besoin, on est tous évangélistes. Moi j'ai entendu ça d'un docteur en théologie, d'un institut biblique français, et j'étais à peine converti, et j'ai entendu ça, j'ai dit mais il y a un problème. Les évangélistes, il voulait définir, la campagne était là-dessus, qui sont les évangéliques? Alors sa réponse était simple, les évangéliques sont des évangélistes. Alors après on va critiquer les journalistes qui disent « Ah, les évangélistes ». Non, nous ne sommes pas tous évangélistes. Certains ont ce don-là, ont cet envoi-là, cet appel, mais on ne l'a pas tous, malheureusement. Par contre, on est tous des témoins de ce que Dieu a fait dans notre vie. Alors, qui sont nos envoyés et nos évangélistes dans notre église qui s'appelle EPEMA? Ça, c'est une bonne question. Qui sont-ils? Moi, j'aimerais vraiment les connaître. Et j'ai même dit au Seigneur, écoute Seigneur, s'il n'y a personne, envoie-moi si tu veux. Franchement, moi je prêche le dimanche matin, mais s'il faut proclamer l'évangile aux non-croyants, si tu me donnes le don, ok, je suis prêt, mais je ne suis pas tout jeune. Il faut des jeunes, il faut des plus jeunes. Et Vous verrez que ça devient un sujet de prière ensuite. Envoyé par le Saint-Esprit, c'était le cas de Paul, qui avait reçu un appel clair à plusieurs reprises, dans Actes 9.15, Actes 13.2, 1 Corinthiens 1.17. Qui sait si parmi nous, en plein accord avec l'Église, une personne va recevoir cet appel de proclamer l'Évangile de Christ à la génération d'aujourd'hui, avec les méthodes d'aujourd'hui? Qui sait s'il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux? Ben moi, je vais vous dire, je suis pas capable d'utiliser les réseaux sociaux. Je suis un peu comme le roi David. Quand il luttait contre Goliath, il avait un outil familier, c'était la fronde. Il a essayé de prendre un outil nouveau, la cuirasse de Goliath, de Saül. Mais c'était pas adapté pour lui. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il faut utiliser des méthodes nouvelles pour proclamer le message. Il y a tellement d'absurdités sur les réseaux sociaux. Si pour une fois il y avait de bonnes choses, j'en ai eu un hier sur YouTube, un message d'évangélisation très simple, en quoi, 5 minutes, et c'était limpide. Et j'ai dit merci Seigneur pour ce frère, parce que moi je l'ai lu comme ça en cherchant comme ça, mais peut-être d'autres l'auront entendu. L'important est de proclamer le message entier. Et puis, on peut être envoyé par l'Église locale, bien sûr en accord avec l'Esprit Saint, pour implanter une nouvelle Église ou toucher une nouvelle couche de la population. Est-ce que ça fait partie de nos préoccupations d'Église, de notre projet d'Église? Bien sûr, c'est dans nos intentions, on est bien d'accord. Mais concrètement, comment ça se traduit? Alors, conclusion, proclamons-nous clairement l'Évangile, sans oublier la repentance en tant qu'individu ou en tant qu'Église. Ça, c'est une première question. Quelle action de notre Église représente une véritable proclamation telle que le Saint-Esprit le conçoit? Qui proclame? Constatons-nous un manque d'envoyés, de chargés de mission ou d'évangélistes? Le Seigneur nous dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. S'il en manque, bien sûr que c'est un problème immédiatement, mais ça ne sera pas un problème demain si on demande au maître de la moisson. Croyons-nous encore à ces charismes d'envoyés et d'évangélistes? Sommes-nous prêts à demander ces ouvriers au maître de la moisson? Constatons-nous un manque de conversion sur notre territoire? C'est peut-être que nous ne proclamons pas le message comme le veut le Saint-Esprit et que notre message ne touche pas les consciences, mais cherche à séduire ou à ne pas trop déranger pour éviter l'hostilité ou la persécution. Ça peut aller jusque-là. Le terrain n'est pas absolument plus dur qu'au premier siècle. Des fois, vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais aujourd'hui, c'est bien plus dur. » Vous croyez vraiment que c'est ça le problème? Vous croyez que l'Empire romain, c'était pas dur? Vous croyez que les philosophies grecques qui envahissaient les églises et les prostituées sacrées de Corinthe et tout ça, vous croyez que c'était pas plus dur encore que ce qu'on vit nous? Et puis la vie, est-ce qu'on avait un SMIC? Est-ce qu'on avait le RSA? Est-ce qu'on avait les voitures pour se déplacer, les téléphones pour communiquer et les réseaux sociaux? Non, on veut parfois nous faire croire que le temps passé était plus facile sur le plan spirituel. Réfléchissez à ça. Je ne pense pas. Le cœur de l'homme est toujours le même. Les tyrans sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, il ne s'appelle pas Félix, mais il s'appelle Poutine. Il s'appelle Xi Jinping. Il s'appelle Kim Jong-un. Et je les nomme. Ce sont des tyrans devant Dieu. Et je ne les condamne pas. Mais ils ont besoin de repentance. Ils ont besoin d'être convaincus par l'Esprit Saint aussi. Et n'avez-vous pas l'impression que notre message ne dérange personne? Alors, posons-nous la question, pourquoi ça ne dérange personne? Dans l'Écriture, on voit qu'il y a des gens comme Félix, non, je verrai ça plus tard. Il y en a, ils vous persécuteront, mais il y en a qui croiront. Et il y a toujours ces trois possibilités. Et si nous sommes à la fin des temps, parce que là aussi c'est un argument que vous entendez, ah oui, mais c'est la fin des temps, comprenez, effectivement, il y a l'apostasie qui va arriver. C'est vrai, mais si on est encore là, c'est qu'il y a des élus à sauver. Il y a encore des âmes qui attendent. Et on demande qu'une chose, c'est de les découvrir, n'est-ce pas? Et de pouvoir leur proclamer ce message. Alors le temps presse si c'est la fin des temps. Effectivement, que le Seigneur nous aide à racheter le temps. Voulez-vous en faire un véritable fardeau dans la prière ?